Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, édition du mercredi 8 septembre 2021. Jean-Roger Billon à ce micro, bonsoir à tous. À la une de nos informations, la CEDEAO suspend la Guinée de toutes ses instances. La décision a été prise aujourd'hui lors d'un sommet virtuel. Dans le nord-ouest du Nigeria, plus de 40 personnes ont été enlevées dans la zone où l'armée mène des opérations contre les enlèvements. Les Marocains votent aujourd'hui l'avenir des islamistes au pouvoir en jeu. La Somalie est dans une nouvelle impasse politique et sécuritaire en raison d'une passe d'armes entre le président Farmajo et le premier ministre Roble. Ne manquez pas dans cette session d'information la Minute Éco et les sports, mais tout d'abord le journal. Les chefs d'État de la CEDEAO réunis en sommet virtuel ont décidé de suspendre la Guinée de toutes ses instances suite au coup d'État de dimanche. Selon un point fait par le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, Alpha Barry, une délégation de l'instance est attendue demain jeudi à Conakry. On écoute Alpha Barry.
Les chefs d'État ont exprimé leur vive préoccupation, comme je le dis, ont exigé le respect de l'intégrité physique du président Alpha Condé et de toutes les personnes arrêtées, la libération immédiate du président Alpha Condé et de toutes les personnes arrêtées, le retour à l'ordre constitutionnel et également donc une mission de haut niveau devrait être envoyée par la CEDEAO en Guinée dès demain même pour donc discuter avec les nouvelles autorités et à l'issue donc de cette mission la CEDEAO devrait pouvoir réexaminer ses positions, mais d'ores et déjà la CEDEAO a décidé de suspendre la Guinée de toutes les instances de décision au niveau de la CEDEAO et demande donc que cette décision soit endossée par l'Union africaine et les Nations unies.
Alpha Barry, ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso. Cela dit, la junte au pouvoir en Guinée continue d'envoyer des signaux forts. Plusieurs détenus, dont les responsables du Front national pour la défense de la Constitution, ont été libérés mardi soir à Conakry. On fait le point avec notre correspondant, Zakaria Camara.
Ils étaient nombreux dans les rues de Conakry à exprimer la joie à l'occasion de la libération des opposants à Alpha Condé. Plusieurs dizaines de détenus ont quitté mardi soir la prison civile de Conakry. C'est le premier groupe de prisonniers que les militaires au pouvoir ont fait libérer à la grande satisfaction de leurs avocats. Maître Mohamed Traoré.
Aujourd'hui, c'est la force de la loi qui a triomphé, la justice contre l'injustice. Merci aux nouvelles autorités du pays qui ont décidé de cette mesure salvatrice pour restituer au peuple sa liberté qui avait été confisquée. Nous nous sommes battus depuis plusieurs années et Dieu merci aujourd'hui, nos efforts ont payé.
Les désormais anciens prisonniers politiques ont quitté Kaloum pour Bambeto, où les militants ont passé de longs moments à chanter et à danser. Les nouvelles autorités du pays ont également ordonné la réouverture des locaux de l'UFDG, parti de Seluda Alain Diallo, principal opposant à Alpha Condé, des locaux fermés depuis plusieurs mois. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
Dans le nord-ouest du Nigeria, plus de 40 personnes ont été kidnappées par des hommes armés. Les enlèvements ont eu lieu près d'une zone où l'armée mène des opérations contre des gangs qui exige des rançons contre des otages. Nathalie Barge.
Hier soir, des hommes armés ont attaqué le village de Dangeshuni dans l'état de Sokoto et enlevé 28 personnes, dont 8 ont été libérées par la suite, a indiqué la police. Cette localité est située près de la frontière avec l'état de Zamfara, où l'armée mène depuis samedi des frappes aériennes et des opérations au sol contre des camps de gangs auteurs d'enlèvement. Ces opérations militaires se sont poursuivies lundi dans la forêt de Soubougou, dans le district de Shinkafi. Lundi soir, des hommes armés ont attaqué la communauté Keke à Shikun dans l'état de Kaduna et kidnappé 17 personnes, dont 5 ont été ensuite secourues par les forces de sécurité. Les équipes d'intervention ratissent la zone pour libérer les 12 autres otages, a précisé la police de Kaduna. En plus des conflits intercommunautaires, la violence dans le nord-ouest du Nigeria s'est intensifiée avec l'émergence de gangs qui attaquent et pillent des villages, volent du bétail et kidnappent des habitants et des élèves. Depuis décembre, un millier d'étudiants ont été enlevés dans le pays, puis libérés après négociation ou paiement de rançon.
Des rebelles tigréens ont tué au moins 125 civils début septembre dans un village de l'Amara, région du nord de l'Éthiopie, gagné ces derniers mois par le conflit qui fait rage au Tigré voisin, ont indiqué aujourd'hui des médecins. Il y a eu 125 morts dans le village de Chena, j'ai vu le charnier moi-même, a déclaré Mulugeta Melessa, chef de l'hôpital de la ville voisine de Dabat, en ajoutant que les habitants cherchaient toujours des cadavres dans les environs et que le décompte est toujours en cours. La Somalie se trouve à nouveau dans une impasse politique et sécuritaire à cause d'un conflit entre le président et le premier ministre autour du remplacement du directeur des services de renseignement, Michel Joseph.
Les tensions entre le chef de l'État, Mohamed Abdullahi Mohamed, dit Farmajo, et son premier ministre, Mohamed Roble, se cristallisent autour de la mystérieuse disparition d'Ikran Talil, employé du service de cybersécurité de l'Agence nationale de renseignement, enlevé à Mogadiscio le 26 juin. Le premier ministre a affirmé que le président entrave l'enquête. Il a annoncé dimanche le limogeage du directeur de l'agence, Farhad Yassine, proche de Farmajo et nommé un remplaçant. La présidence a annulé lundi cette décision et annoncé la nomination de Farhad Yassine au poste de conseiller à la sécurité du président, désignant son propre remplaçant à la tête de l'agence de renseignement. Cet énième conflit au sommet de l'État inquiète alors que le pays attend toujours la tenue de l'élection présidentielle. Mohamed Roble était parvenu à un accord sur un calendrier électoral, mais le processus a déjà pris du retard. La désignation des membres de la Chambre basse, dernière étape avant l'élection du chef de l'État, doit maintenant se tenir entre le 1er octobre et le 25 novembre.
Les élections locales en Afrique du Sud, test pour le parti historique au pouvoir ANC et dont le maintien cette année avait été remis en question à cause du Covid, auront finalement lieu le 1er novembre. Le scrutin arrive aussi quelques mois après une vague sans précédent de violences et pillages après l'incarcération de l'ex-président Jacob Zuma. La commission électorale avait demandé à la justice un report en 2022 des élections initialement prévues le 27 octobre. L'ONG Human Rights Watch a dénoncé aujourd'hui des cas d'abus, notamment sexuels, lors de distribution d'aide alimentaire dans le nord-est du Mozambique, en proie à une grave crise humanitaire engendrée par l'insurrection djihadiste qui dure depuis presque 4 ans. Des fonctionnaires locaux de la province du Cabo Delgado ont exigé des faveurs sexuelles ou de l'argent à certaines femmes en échange d'une aide alimentaire, a déclaré Zenado Machado, chercheur chez Human Rights Watch. Les Marocains votent ce mercredi pour des élections générales qui devraient déterminer l'avenir du parti islamiste PJD au pouvoir depuis une décennie. Le point avec Rosine Monezero.
Quelques 18 millions d'électeurs vont choisir pour la première fois les 395 députés de la Chambre des représentants et plus de 31 000 élus communaux et régionaux. Quel que soit le résultat, les élections législatives aboutiront à un nouveau gouvernement. Le chef du gouvernement sera issu du parti arrivé en tête du scrutin législatif. Il est nommé par le roi Mohamed VI et chargé de former son exécutif pour un mandat de 5 ans. En 2011, le Maroc a adopté une nouvelle constitution accordant de larges prérogatives au Parlement et au gouvernement. Mais les décisions et les grandes orientations restent un domaine réservé aux monarques. Passé le scrutin dont les premières estimations sont attendues dans la soirée, l'ensemble des partis politiques marocains sont censés adopter à une date non déterminée, un pacte découlant du nouveau modèle de développement conçu et présenté en mai dernier par une commission mandatée par le roi Mohamed VI. Ce projet ambitionne de doubler le PIB à l'horizon 2035 pour le nouveau gouvernement qui aura pour priorité de réduire les profondes inégalités qui frappent le royaume.
L'Union européenne est prête à faire davantage pour soutenir l'organisation des élections prévues en Libye, fin décembre en particulier en appuyant la réforme du secteur de la sécurité, a assuré ce mercredi à Tripoli le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell. Il a salué les nombreux progrès réalisés au cours de l'année écoulée, cessez-le-feu, institutions politiques unifiées et feuilles de route pour les élections. Le député tunisien Yassine Ayari, connu pour ses positions critiques envers l'armée, et le président Kais Saied a entamé une grève de la faim pour protester contre les poursuites intentées à des civils par la justice militaire, a indiqué son avocat ce mercredi. Ce député indépendant de 40 ans avait qualifié ce régime d'exception de coup d'état militaire sur les réseaux sociaux.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les Occidentaux ont réagi négativement aujourd'hui à la composition du gouvernement intérimaire afghan qui comprend la vieille garde talibane, mais aucune femme étranche avec les promesses d'ouverture du régime. De retour au pouvoir depuis la mi-août, les talibans ont présenté hier un gouvernement qui n'est ni inclusif ni représentatif de la diversité ethnique et religieuse de l'Afghanistan, a déploré l'Union européenne. Les États-Unis, eux, ont relevé l'absence de femmes et se sont dit préoccupés par les affiliations et les antécédents de certains de ces individus, même s'ils jugeront sur les actes. La Chine, l'un des rares pays à maintenir son ambassade ouverte à Kaboul, a pour sa part salué la mise sur pied d'un gouvernement qui met fin à plus de 3 semaines d'anarchie. En France, Salah Abdeslam, principal accusé au procès des attaques du 13 novembre 2015 qui s'est ouvert aujourd'hui à Paris, a reproché à la justice française de traiter les accusés comme des chiens, celui qui auparavant avait affirmé à la cour avoir délaissé toute profession pour devenir un combattant du groupe État islamique, a profité du bref malaise d'un de ses co-accusés pour dire sa vindicte. « Si je ne me suis jamais plaint, c'est parce qu'après la mort, on sera ressuscité », a-t-il dit en haussant la voix. Voilà pour le journal, vous écoutez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Rosine Monizero.
Au Cameroun, le gouvernement révèle des statistiques sur ce qu'un rapport du FMI appelait déjà les piètres performances des entreprises publiques. L'État du Cameroun soutient que les 44 entreprises qui constituent son portefeuille ont cumulé sur la période 2017-2019 des pertes globales de 224 milliards de francs CFA et qui ont un effet sur le budget de l'État. La société nigériane de technologie automobile Autocheck a conclu avec Ranger One Africa Media, un accord pour acquérir ses filiales Tchéquie Kenya et Tchéquie Ouganda, deux plateformes de vente de voitures en ligne. Selon le PDG d'Autocheck, Itop Ikpe, le mandat d'Autocheck est d'accélérer la capacité des consommateurs africains à accéder à des véhicules de meilleure qualité et abordables, tout en rendant plus sûr le processus de prêt automobile pour les institutions financières. Le groupe hôtelier africain Onomo Hotels, qui gère 22 hôtels dans 13 pays africains, s'est doté d'une nouvelle technologie qui lui permettra d'optimiser ses opérations avec une stratégie de distribution plus efficace. La nouvelle plateforme lui permettra de toucher de nouveaux voyageurs et de mieux vendre la destination Afrique avec un meilleur ciblage basé sur l'intelligence artificielle.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouédraogo.
Bonsoir à tous. Suite et fin hier des matchs de la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, Zone Afrique, 3-1 pour le Sénégal face au Congo. Les Lions de la Teranga enchaînent ainsi avec une deuxième victoire en deux matchs. 2-1 pour le Nigeria face au Cap-Vert. La Tunisie a battu la Zambie 2-0. La Tanzanie a eu le dernier mot devant Madagascar 3-2. 1-0 pour le Malawi face au Mozambique. Même score pour l'Éthiopie devant le Zimbabwe. 1-0 pour la Guinée équatoriale qui recevait la Mauritanie. La Libye a battu l'Angola 1-0 et la Guinée-Bissau a disposé du Soudan 4-2. 1-1 dans le match attendu entre le Burkina Faso et l'Algérie à Marrakech au Maroc. Le compte-rendu de la rencontre avec Kader Traoré.
Sur le papier, ce match entre Etalon et Fennec était quelque peu déséquilibré car d'un côté, il y avait une équipe burkinabé en reconstruction avec l'absence des joueurs cadres comme Alain et Bertrand Traoré, Edmond Tapsoba, Charles Kabore. De l'autre côté se dressait l'Algérie, l'ogre du football africain, champion en titre de la CAN et qui surfe désormais sur un record de 28 matchs sans défaite. D'ailleurs, les Fennec vont prouver qu'ils sont les favoris du groupe A en allumant les premières matchs de la partie. Soufiane Feghouli, bien servi au cœur de la défense burkinabé, ouvre le score. Après, le match devient une attaque et défense avec une grosse possession de balles des Algériens. Il aura fallu un bon Hervé Kofi Kwaku dans les perches du Burkina pour éviter le naufrage. Le score restera-t-il jusqu'à la mi-temps? À la reprise, les Burkinabés reviennent conquérants, doublés de bonnes intentions dans le jeu. Ils se donnent corps et âme et poussent les Algériens à douter. À la 64e minute, Franck Lassina Traoré sur le côté sert Faisal Tapsoba. Le sociétaire du Standard de Liège contrôle le ballon et trompe le portier adverse Raïs Boli. Cette égalisation libère l'équipe burkinabé qui joue désormais sans complexe et parvient à casser toutes les offensives algériennes. Un but partout, le score restera inchangé jusqu'au coup de sifflet final de l'arbitre botswanais Joshua Bondo. Ce résultat sonne comme une contre-performance pour les Fennec et un exploit pour les étalons. Les deux formations se tiennent au premier rang du groupe A avec 4 points. Le lundi, le Niger qui avait battu Djibouti par 4-2 est troisième avec 3 points. Djibouti ferme la marche avec 0 point en 2 sorties. Ouagadougou, Kader Traoré pour VO Afrique.
Dans la zone Europe, l'équipe de France est rassurée contre la Finlande grâce à une victoire 2-0 avec un doublé d'Antoine Griezmann. Les Pays-Bas ont déroulé contre la Turquie 6-1. Le Portugal s'est imposé 3-0 contre l'Azerbaïdjan. La Serbie a été tenue en échec par l'Irlande 1-1. Le Danemark enchaîne avec un sixième succès en autant de rencontres lors de ses éliminatoires. Les Danois ont dominé Israël 5-0. L'Écosse s'est imposée 1-0 devant l'Autriche. La Fédération japonaise de football renonce à accueillir la Coupe du monde des clubs en décembre. La raison, les restrictions dues à la crise sanitaire. Selon l'agence de presse Kyodo, la Fédération japonaise est en discussion avec la FIFA qui pourrait repousser à début 2022 la compétition qui oppose chaque année les clubs vainqueurs des principales compétitions continentales et des représentants du pays hôte.
Page des sports signée Yakuba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Depuis l'annonce dimanche dernier du renversement du président guinéen Alpha Condé, les réactions se sont multipliées. Mais jusque-là, son parti, le RPG Arc-en-Ciel, a fait profil bas. Azuma Compaoré a recueilli la réaction de Bilo Sano, le secrétaire général du RPG Arc-en-Ciel aux États-Unis.
Pour le moment, nous attendons la réponse du RPG par le Bureau politique national, parce que le parti est structuré. Pour le moment, c'est silence. Donc nous, en tant que responsables, surtout qui vivent à l'extérieur, on ne comprend pas du tout pourquoi ce silence. Le parti aurait dû faire un communiqué. Pour le moment, le Bureau politique national ne s'est pas prononcé, mais nous, en tant que responsables, ne pouvons que condamner l'acte et demander à ce que l'intégrité physique du président de la République et sa dignité soient respectées par les nouvelles autorités du pays.
Les heures qui ont suivi justement l'annonce du coup, on a attendu en vain une réaction du RPG.
Bon, cela est dû à beaucoup de facteurs. Vous savez, les gens ont été surpris. Deuxièmement, le président Alpha Condé, quand il a été élu, il n'a jamais accepté de gouverner exclusivement avec le RPG. Quand vous prenez le gouvernement du président Alpha Condé, les vrais cadres du RPG ne représentent pas plus de 5%. Donc imaginez que vous avez créé un parti, vous êtes à la tête d'un parti qui vous a mis au pouvoir et que vous décidez d'ignorer les 95% de ce parti dans le gouvernement. Et imaginez un peu ce que ça peut amener comme frustration. De deux, il y avait aussi la guerre fratricide entre certains cadres qui étaient très proches du président, que le président lui-même a fait confiance, mais qui en réalité n'ont fait qu'abandonner le président. Ils l'ont isolé. Ils ont rendu l'accès très, très, très difficile, voire même impossible au président, donc d'être en contact avec ceux-là réellement qui l'aiment, ceux-là qui se sont battus pour qu'il soit là. Donc, il y a eu beaucoup de facteurs qui ont contribué à ce que les gens ne se manifestent pas. L'attention n'était plus sur les réalités, sur les objectifs du président. Et finalement, ils ont été tous pris de court par ce qui est arrivé.
Quel aura été le grand péché de Alpha Condé, selon vous?
Moi, je ne reproche rien au président, sinon que et il a été victime de la trahison de ses propres, de ces gens, et qu'il a eu à faire confiance, non seulement dans l'armée, mais aussi dans son propre palais, Sékou Touré.
Bilo Sano, secrétaire général du RPG Arc-en-Ciel, ici aux États-Unis.
Mandia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, la chute du président Alpha Condé en Guinée et les coups d'État en Afrique. Troisième putsch dans la sous-région depuis le mois d'avril, il intervient moins d'un an après qu'Alpha Condé a rempilé pour un troisième mandat controversé. La Guinée se dirige donc vers une nouvelle transition militaire. Et quels sont les chantiers des nouveaux maîtres de Conakry? Pourquoi assiste-t-on à un retour des coups d'État en Afrique de l'Ouest? Comment garantir la stabilité institutionnelle en Afrique? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com.
Au Mali, le leader religieux de Nioro, Mohamed Haïdara, connu sous le nom de Bouyé, a plaidé devant les émissaires de la CEDEAO pour une prorogation de la transition. Quel peut être l'impact de ce plaidoyer du shérif de Nioro à un moment où la CEDEAO appelle à respecter les délais? Modibo Dembélé a joint Youssouf Sissoko, directeur du journal La Sentinelle, à Bamako.
Le shérif, d'abord, c'est un chef religieux. Il est à la tête du groupe amaliste. Le shérif est dans son rôle parce que pratiquement l'aspiration d'un plus grand nombre de Maliens, qui pensent aujourd'hui que les hommes politiques ayant peut-être mal géré le pays, il faut donner le temps en tout cas à ces militaires-là de poser les jalons du Mali courant. Je crois que c'est normal parce que nous sommes dans une situation très grave. Il faudrait quand même que nous ayons un peu de temps pour sécuriser le pays, pacifier un certain nombre de zones pour pouvoir organiser les élections au moins. Maintenant, le shérif, il a émis un souhait, un vœu. Les émissaires de la CEDEAO doivent justement transmettre ce message-là aux autres présidents de la CEDEAO.
À l'instar des critiques qui ont été formulées à l'endroit des religieux sur la scène politique, quels peuvent être les dangers d'une telle immixtion du religieux sur la scène politique?
Au Mali, les religieux ont toujours joué un rôle déterminant sur la scène politique. Hein. Nous nous rappelons quand même qu'en 2013, ils ont joué un très grand rôle dans l'élection, en tout cas, du président Ibeka. Le Mali est un pays à vocation presque musulmane. C'est vrai, la laïcité est une réalité. Il n'y a vraiment pas de risque que les leaders religieux émettent souvent leur avis par rapport à telle ou telle question. Maintenant, il est là peut-être à penser qu'ils vont peut-être influencer peut-être le vote. Je ne crois pas que cela soit réel. En fait, il faudrait quand même comprendre les leaders religieux parce qu'ils sont avant tout des Maliens. Donc, ils appartiennent à des associations de la société civile. Et nous savons tous que dans une démocratie, la société civile a un très grand rôle à jouer. Moi, je ne vois vraiment pas de mauvais que les chefs religieux émettent leur avis.
Est-ce qu'on pourrait encore les accuser de s'immiscer de la gestion de la vie politique malienne?
D'abord, au-delà de son chapeau religieux, c'est un leader d'opinion, puisqu'il a derrière lui, en tout cas, un certain nombre de Maliens, des gens qui se reconnaissent à lui. Donc, on l'invite à un tel débat. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'inconvénient à ça. Maintenant, est-ce que désormais, les gens vont se plaindre du fait que les leaders religieux sont en train de s'immiscer dans la vie politique? Non, je crois qu'il faut faire la part des choses. Pour, en tout cas, pour la transition, c'est tout le monde qui est convié, religieux, non religieux, pour en permettre à la grande réussite de la transition. Après ça, peut-être, au niveau de la loi, il faut mettre des choses qui permettent en tout cas aux religieux de jouer pleinement leur rôle religieux et de se mettre à l'écart un peu de la chose politique.
Face à la recrudescence de l'insécurité au pays, la transition actuelle pourrait respecter les délais impartis?
Les assises vont déterminer si en tout cas il faut prolonger ou pas la transition.
C'était Youssouf Sissoko, directeur de publication du journal La Sentinelle au Mali.
VOA Afrique, 24 heures sur 24 à Bamako, au Mali. Sur 102 FM.
Les autorités kényanes affirment que l'impact de la pandémie de COVID-19 a poussé des milliers de jeunes dans les rues et beaucoup se tournent vers la criminalité. Pour relever le défi, des groupes d'aide tentent de réintégrer les jeunes sans-abri par le biais du sport. Le reportage de Victoria Amunga à Nairobi, le récit avec Eric Manirakiza.
Anthony Ndegwa se souvient du jour où il a quitté son domicile à Nairobi après des violences domestiques incessantes liées aux faibles revenus. Sa mère a été poignardée par sa tante en colère.
Je suis rentré de l'école. Ma mère et mon frère étaient partis à l'hôpital. Je me suis changé et j'ai quitté la maison pour rejoindre mes amis dans la rue. J'avais peur que ma tante me poignarde aussi. Depuis lors, j'ai vécu dans la rue.
Il fait partie des centaines de jeunes qui ont quitté la rue grâce à des groupes d'aide qui réhabilitent les jeunes sans-abri à travers le football. Selon Chuba Wango, le programme leur donne une chance de réintégrer progressivement les jeunes de la rue dans la société et de leur offrir des repas réguliers alors que la pandémie de COVID-19 continue de perturber les moyens de subsistance.
La plupart d'entre eux aiment le sport, alors nous utilisons ce sport, nous organisons des jeux, de sorte que ceux qui veulent jouer et qui sont dans la rue sont prêts à laisser tout le reste juste pour pouvoir jouer. Et en tant qu'entraîneur, je ne peux pas les laisser retourner dans la rue après avoir joué.
Depuis mai, des dizaines de sans-abri ont été sauvés dans le cadre du programme de réhabilitation du gouvernement kényan qui vise à sortir au moins 500 jeunes de la rue. Sœur Jane Rose Nyongesa, du fonds fiduciaire pour la réhabilitation des familles de la rue.
Il y a quelqu'un qui va dans la rue et qui parle aux enfants. Puis nous avons un jour spécifique où nous les amenons ici. Maintenant, nous les amenons ici. Il y a des besoins de base qu'ils doivent satisfaire. Nous avons de la nourriture, nous avons des médicaments.
Le programme est insuffisant pour s'attaquer à un problème de grande ampleur. Nairobi compte environ 60 000 familles de la rue contre 15 000 avant la pandémie. Ce chiffre devrait rester élevé jusqu'à ce que l'économie essoufflée du Kenya retrouve son dynamisme.
Écoutez VOA Afrique, désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique, dans tout le continent africain, sur la chaîne 555 de Canal+.
20e anniversaire des attaques du World Trade Center ici aux États-Unis. Ils étaient trop jeunes pour se souvenir des attentats du 11 septembre, ou bien ils sont nés dans les années qui ont suivi, mais ils ont tous grandi dans une ville confrontée aux conséquences de ces attaques. Que signifie le 11 septembre 2001 pour les jeunes adultes et adolescents de New York? Le reportage de Tina Train, le récit Abdourahman Dia.
Noah Rodriguez n'avait que 2 ans à l'époque, mais il pense au 11 septembre comme le jour où la Terre s'est arrêtée, tout le monde regardant les tours jumelles brûler.
Et c'était important parce qu'il y a un niveau d'humilité à cela. Et je ne pense pas que cela va être oublié pour autant.
Mais après avoir vécu les tensions politiques des 4 dernières années et maintenant le Covid-19, cet étudiant en médecine dit que les attaques n'étaient qu'un événement douloureux parmi d'autres.
Le 11 septembre n'était qu'une autre des choses parmi toutes ces catastrophes qui se sont produites au cours de nos vies.
Les attaques contre le World Trade Center ont sans aucun doute changé la ville de New York, mais pour ceux qui étaient trop jeunes ou qui sont nés peu de temps après, il y a une certaine ambivalence à l'approche du 20e anniversaire.
Je pense que la plupart des enfants, ils comprennent en gros ce qui s'est passé. Ils peuvent comprendre que c'était une tragédie, mais ce n'était pas la même chose que de vivre cela.
Pour Sarah Malik, âgée de 16 ans, le 11 septembre est une expérience lointaine racontée par son père qui travaillait près des tours jumelles. Cette déconnexion est courante.
Je pense juste que beaucoup d'entre eux ne savent pas. Ce n'est pas qu'ils le sachent, mais ils s'en soucient peu.
Pour John Mastropaolo du musée du 11 septembre, les événements et leurs conséquences peuvent devenir réels pour les jeunes générations lorsqu'on leur raconte des histoires de survivants.
Je veux dire, quand je leur dis ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu, ce que j'ai senti.
Pour Sylvana, 17 ans, c'est personnel. Sa mère était censée être dans les tours jumelles lorsque l'attaque est survenue.
Si ma mère y avait été, je ne serais pas ici.
Ayant grandi dans une banlieue de New York où beaucoup ont perdu leurs parents, elle vit avec l'attaque en toile de fond. Elle a récemment écrit un article à ce sujet.
Je crois qu'on ne devrait pas l'oublier et il devrait être raconté à la génération montante car cela fait partie de notre histoire.
Elle collecte des fonds pour un organisme de bienfaisance lié au 11 septembre.
J'espère que cela ouvrira les yeux aux autres sur la façon dont votre vie peut vraiment être prise en une seconde et que vous l'apprécierez vraiment chaque instant.
Alors que le pays s'apprête à célébrer le 20e anniversaire, les générations futures définiront elles-mêmes ce que le 11 septembre signifie pour elles.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci à toute la rédaction et à notre équipe de production. Jean-Roger Billon à ce micro. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com
et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.
Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM, Bamako. Raga FM, Goma. 96.5 Fraternité FM, Parakou, Bénin. Et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde